They don't know of any program in Uganda.
Of course not.
يصلون الليل بالنهار استعدادا.
¿Cuál sería su reacción?
21 веке гражданка Райс вспомнила.
这两天原本居住在祁连县偏远牧区的牧民达木家
正忙
Todos juntos.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à 11h50, une émission préparée ce matin par Clémence Alezar, mais aussi Tiffaine de Rocchini, Xavier Martin et Hélène Paquet, réalisée par Perret Legras et mise en onde ce matin par Myriam Guillot. Journée spéciale aujourd'hui sur France Culture, à un an l'élection présidentielle, retrouver le désir de politique en partenariat avec la Croix. À un an de l'élection présidentielle, donc France Culture consacre une large partie de la journée à explorer les rapports entre les citoyens et la politique, tensions sociales, perte de crédit de la parole politique, désaffection pour les partis, mais aussi mobilisation nouvelle, initiative inédite, les formes traditionnelles de la vie politique sont bousculées. Ces tensions s'observent en France bien sûr, mais également à l'étranger. C'est donc dans le cadre de cette journée spéciale qu'on va vous proposer toute cette semaine une série intitulée « Réenchanter le politique ». Et pour commencer, nous allons nous intéresser à ces nouveaux partis qui, de l'Espagne à l'Italie, en passant par la Grèce ou l'Allemagne, bouleversent le paysage politique. 5 étoiles, Podemos, AFD, changez la donne.
Le peuple grec a donné un mandat clair. Et cet résultat, aujourd'hui, n'appartient pas à Syriza. Cet résultat appartient aux couches populaires de ce pays, à tous ceux-là qui se battent pour un meilleur avenir. Car nous voulons, d'ici 4 ans, avoir une Grèce plus forte, plus juste et avec un peuple fier et pas dépendant.
Señorías,
mesdames et messieurs, dire la vérité et avoir des valeurs est devenu quelque chose d'étrange. Et il semble qu'aujourd'hui la politique soit devenue l'art de la simulation quand ce n'est pas l'art du mensonge et du camouflage ou du métissage. Permettez-moi aujourd'hui de dire la vérité et de revendiquer la politique comme l'art de changer les choses et non comme l'art de négocier pour que tout continue comme avant.
Nous voulons rediscuter chaque traité ou directive européenne, depuis Bolkestein jusqu'à nos interventions militaires en Libye. Nous voulons discuter des accords sur l'agriculture et la pêche. Nous devons discuter de la dette. Nous sommes étranglés par la dette. Il faut trouver une solution.
Alexis Tsipras, Pablo Iglesias, Beppe Grillo, du nord au sud, d'est en ouest, l'Europe est traversée par une crise de confiance politique majeure. Abstention, rejet des partis en Espagne, en Grèce, en Italie. Les foules s'enflamment sur le mode du tous pourri. Il y a 3 ans, le mouvement 5 étoiles du comique Beppe Grillo réalisait une percée électorale forte, plus de 20% législative. Depuis, il est la seconde force politique du pays et à l'approche des municipales de Rome en juin, le PD de Matteo Renzi frémit tant il est mal en point dans la capitale. Mais comment qualifier ce mouvement traversé de courants très variés, sinon inverses? De quoi est-il le nom? A-t-il de l'avenir? Dans quelle mesure a-t-il bouleversé l'échiquier politique italien? Syriza, Podemos, Mouvement 5 étoiles, ces mouvements partis se proclament du peuple et s'érigent contre la caste. Ils sont les visages et les porte-voix populistes de ces antisystèmes qu'elle vend aux poupes. Ils ont pris de court les partis de gouvernement. Ces trublions de rue qu'ils observaient place Sintagma ou Puerta del Sol, ils les côtoient maintenant à l'Assemblée. C'est peut-être là que les choses se compliquent. Ces nouveaux partis critiquent vigoureusement la verticalité et l'incurie des forces politiques traditionnelles et leur soif de pouvoir césariste, mais deviennent partis, désignent des leaders et briguent et obtiennent même leur place au soleil. Alors est-ce qu'on peut être anti-système et s'y installer? Peut-on fustiger le jeu politique et finalement le jouer? C'est tout le défi de ces nouveaux partis anti-castes dont nous analyserons ce matin l'exercice du pouvoir. Peut-on parler d'une institutionnalisation réussie ou au contraire révèle-t-il un épuisement manifeste de la forme parti? Le cas espagnol est très parlant à cet égard, le basculement brutal du bipartisme au quadripartisme, on va le voir tout à l'heure, nous rend une Espagne peut-être ingouvernable, en tout cas avec cette hydre politique à 4 têtes. On en parlera tout à l'heure avec Héloïse Ney, mais d'abord pour évoquer le cas de l'Italie, c'est Marc Lazare qu'on a invité. Bonjour Marc Lazare.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, vous êtes historien, sociologue, professeur à Sciences Po notamment. Merci beaucoup d'être avec nous. On va parler de l'Italie avec vous, mais d'abord je voudrais peut-être votre avis pour Si on met un peu en regard ces différents partis, Podemos en Espagne, Syriza en Grèce, le mouvement 5 étoiles en Italie, alors et bien sûr ils ont en commun d'avoir poussé, émergé sur le terreau de cette crise économique et sociale et sur ce rejet des partis politiques nationaux, mais quelle ressemblance et quelle différence vous voyez entre ces trois nouvelles entités ? Au-delà des programmes politiques, quels sont les points communs et peut-être les nuances qu'on peut établir s'agissant de leur désir de repenser le politique, puisque c'est notre sujet ce matin ?
Oui, c'est vrai que ces mouvements expriment un désir de repenser et de rénover la politique. D'ailleurs, on pourrait y mettre, ça pourrait choquer, mais aussi l'énorme développement des mouvements d'extrême droite. D'une certaine façon, c'est, comme le titre de votre émission, une forme, en tout cas proposée par ces formations, de réenchantement de la politique, ce qui suppose qu'elle est désenchantée. Et effectivement, ça, je crois que c'est le cadre général à avoir. Plutôt que de parler de crise de la démocratie, je crois qu'il faut bien comprendre qu'on est dans un processus de mutation de la démocratie, avec des tendances très contradictoires et très antagoniques. Et effectivement, on a des mouvements qu'on peut regrouper sous l'appellation anti-politique, mais qui sont une anti-politique au sens de anti-contre cette politique-là, et qui cherchent justement de nouvelles formes d'expression de la politique, pour une série de raisons que vous avez invoquées, la défiance à l'égard des institutions, la défiance à l'égard des classes dirigeantes, et pas simplement de la classe politique. Ça, je crois que c'est l'Europe est rentrée dans une nouvelle phase de son histoire. La question européenne, la question des migrations, bref, il y a une série d'éléments de malaise qui permettent à ces formations justement de prospérer, et elles prospèrent en accentuant justement ces problèmes. Alors, si on prend les trois cas que vous nous proposez, je crois qu'elles ont effectivement cette caractéristique commune de vouloir, vous l'avez très bien dit, rejeter la caste. Et d'ailleurs, le mot caste, c'est très intéressant parce qu'au départ, c'est le titre d'un livre de deux journalistes italiens qui a été un best-seller, et ce livre dénonçait les énormes avantages de tous les responsables politiques italiens. Et c'est passé, ce mot, de l'Italie à l'Espagne, et maintenant ça arrive en France aussi. Et donc c'est une volonté, en gros, à l'époque de Pujade, donc dans les années 50 en France, on aurait dit tous pourris. Ça, c'est un élément très important, mais il n'y a pas que ça, il y a une volonté aussi très forte de critiquer la construction de l'Union européenne telle qu'elle est engagée aujourd'hui, parfois aussi de proposer la sortie de l'euro, on y reviendra avec le cas Mouvement 5 étoiles, et effectivement d'inventer de nouvelles formes de pratiques politiques, en particulier par des mobilisations citoyennes, et en tout cas pour le cas du mouvement 5 étoiles, mais aussi de Podemos, de l'importance des réseaux sociaux. Alors après, effectivement, il y a des grosses divergences, on peut le dire tout de suite. Une principale qui me saute aux yeux, c'est que Podemos et Syriza naissent quand même de gens qui sont socialisés dans la gauche communisante ou communiste. C'est très clair en Espagne, c'est très clair dans le cas de Syriza.
Ça l'est beaucoup moins du côté de l'Italie.
C'est absolument pas le cas. Beppe Grillo n'a jamais eu la moindre formation marxiste, par exemple, comme les dirigeants de Podemos.
On va essayer de comprendre justement de quoi est fait finalement l'idéologie politique, s'il y en a une du côté du mouvement 5 étoiles. Mais quand même, regardons récemment les sondages italiens qui nous donnent le mouvement 5 étoiles devant le Parti démocrate de Matteo Renzi. Alors, c'est tout nouveau, mais effectivement, on a des élections locales, on va en parler, qui vont avoir lieu très bientôt, le 5 juin. Et ça va être un vrai test, bien sûr, pour le président du Conseil. Mais là, l'un des derniers sondages, 28,4 contre 28 pour le PD. C'est la première fois qu'on a cette tendance-là. Alors bien sûr, c'est des sondages, il faut faire attention, etc., etc. Mais quand même, on voit qu'il y a une dynamique qui est plutôt dans le sens du mouvement 5 étoiles. Lors des élections européennes, pourtant, justement, le Parti démocrate italien, c'était l'un des rares partis en Europe, le centre-gauche, a tiré son épingle du jeu. On se souvient, il avait obtenu quasiment plus de 40%, je crois.
41%
des voix. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Pourquoi Renzi est-il à la peine à ce point ?
Alors Renzi gagne effectivement de manière spectaculaire les élections européennes.
C'est le seul.
Le seul en Europe pour les partis, disons, de centre-gauche. Le Parti démocrate est membre du Parti socialiste européen, mais ce n'est pas du tout un parti qui a l'histoire de la social-démocratie et du socialisme derrière lui. Mais effectivement, pourquoi à l'époque, Renzi est totalement nouveau. Il vient d'assassiner son collègue de parti, Enrico Letta. Il est nommé président du Conseil. Il prend la mesure immédiate de 80 euros pour les revenus les plus faibles. Et puis, il annonce une série de réformes spectaculaires et il mène une campagne très habile sur les questions européennes. D'un côté, une critique de l'Europe et de l'autre côté, un plaidoyer pour les États-Unis d'Europe, c'est-à-dire une position fédéraliste. Mais qu'est-ce qui s'est passé depuis ? C'est qu'il est au pouvoir et que ça use le pouvoir et que tout ce qu'il voulait faire du point de vue économique, il en a fait une partie, la réforme du marché du travail qui a suscité quelques résistances. Il y a une reprise un peu de l'activité économique, il y a un peu moins de chômage, mais le grand motif de comme protestation, disons, et de non-satisfaction est la question du chômage. Il n'empêche que sa popularité est élevée. Je pourrais vous dire, pour m'amuser, que je reviens d'Italie, que le dernier sondage montre que, de nouveau, le PD est devant le mouvement 5 étoiles. Mais peu importe, vous avez raison. Ce qui est très important, c'est que en 2013, au moment de ce très beau succès du mouvement 5 étoiles aux élections politiques, c'est-à-dire législatives, il était le premier parti. Hein, il était le premier parti politique, mais il n'avait pas obtenu tous les sièges équivalents pour des tas de raisons liées à la loi électorale. Tout le monde pensait que ce serait un épiphénomène. Et ça résiste. Et ça résiste, y compris malgré ce que fait Renzi, c'est-à-dire une forme de pratique un peu quasiment populiste de sa pratique de pouvoir pour essayer de canaliser le vote et pour essayer de récupérer des voix par rapport au mouvement 5 étoiles. Ça résiste parce que le mouvement 5 étoiles, dans sa grande diversité qu'on va voir, justement canalise l'insatisfaction et canalise encore la protestation et l'exigence de quelque chose d'autre.
Comment est-ce qu'il y arrive? Ça va être une des questions qu'on va se poser. Mais encore un tout dernier mot sur Renzi, parce que le risque politique est colossal pour lui, parce que depuis la nouvelle loi justement électorale de l'année dernière, qui a été voulue, qui a été votée par les démocrates, désormais il faut avoir 40% au premier tour pour l'emporter, sinon il y a un second tour, et visiblement dans beaucoup d'hypothèses, en cas de ballotage, le mouvement 5 étoiles l'emporterait dans beaucoup de cas. Donc il y a un vrai risque pour Renzi. 2016, c'est une année décisive politique.
Oui, tout à fait. Et c'est Matteo Renzi à deux échéances immédiates, enfin une immédiate et une à l'automne. La première, c'est effectivement les élections dites administratives, si on dirait chez nous municipales, et notamment la question de Rome, qui est un gros enjeu. Et d'autre part, le référendum sur la réforme institutionnelle, où il a dit que s'il le perdait, il quitterait le pouvoir. Donc ça se rapproche très fort. Et il y a une grande leçon, c'est que quand on joue la carte personnalisée, eh bien plus le leader est fort, plus il s'expose et donc plus il est faible. C'est le paradoxe de la démocratie du public. Carte que joue pleinement Matteo Renzi pour essayer justement de contrecarrer le mouvement 5 étoiles.
Alors vous disiez, l'une des villes où un candidat à mouvement 5 étoiles pourrait l'emporter, c'est Rome avec Virginia Raggi.
Nous allons devoir administrer une ville qui a été violée pendant des années par une classe politique calamiteuse. Les vieux partis ont été incapables de gouverner Rome et nous, les nouveaux venus, nous ferons mieux qu'eux.
I cui interessi non erano quelli dei cittadini.
Voilà, Virginia Raggi, elle est pour l'instant en tête des sondages, même si on sait ce qu'on dit sur les sondages. Elle profite en tout cas des négligences et autres affaires de corruption qui minent la gestion de la capitale depuis des années. D'ailleurs, l'ancien maire du Parti démocrate avait été obligé de démissionner à cause d'affaires, de fausses notes de frais, etc. Elle a vraiment des chances de l'emporter, là.
Oui, et là encore, les sondages qui ont été publiés ce week-end à Rome montrent qu'elle gagnerait dans tous les cas de figure au second tour, quel que soit son adversaire. Il reste encore quelques jours, le premier tour est le 5 juin, donc on verra bien. Mais incontestablement, c'est un enjeu considérable. Si Rome tombe aux mains du mouvement des 5 étoiles...
Quel symbole !
C'est évidemment un énorme symbole pour le mouvement 5 étoiles qui va hériter de la capitale politique avec d'énormes chantiers pour la nouvelle mère qui est une jeune femme en plus, qui a très peu d'expérience.
À peine 40 ans, je crois.
Absolument, une avocate qui est typique de ces membres du mouvement 5 étoiles et qui bénéficie de la situation que vous avez rappelée, c'est-à-dire un parti démocrate qui est complètement laminé par des affaires de corruption, qui est en plus profondément divisé, et un centre-droit qui lui aussi s'est beaucoup divisé sur la bonne candidature. Il y a un risque, cela dit, qu'elle ait au deuxième tour une candidate quasiment néo-fasciste qui a proposé comme programme d'immédiatement rebaptiser une rue de Rome du nom de Giorgio Almirante, le leader historique du mouvement social italien, parti néo-fasciste. Oui, ça va être fondamental, et si en cas de victoire de Madame Raggi, incontestablement, Renzi serait affaibli. Reste à voir qu'est-ce qu'il y aura comme résultat à Milan, qui est l'autre grand enjeu. Milan est une municipalité du centre-gauche, et là c'est un tête-à-tête pour le moment entre le candidat centre-gauche et le candidat centre-droit.
Permettez-moi de vous poser une question à Marc Lazare, et qu'on vienne pas dire que c'est parce que c'est une femme, mais je vais vous poser la question de la compétence. Elle n'a pas d'expérience politique. Est-ce qu'elle est compétente? Première question. Et est-ce qu'elle aurait aussi les moyens de s'entourer d'une équipe suffisamment solide, suffisamment compétente pour redresser cette ville dont la gestion, on le sait, est absolument catastrophique depuis des années?
Beaucoup se sont cassés les dents sur Rome, et y compris, enfin, on a eu des grands maires de Rome, mais c'est effectivement une ville extraordinairement difficile à gérer pour des tas de raisons. L'administration pléthorique, l'étendue du territoire, la complexité de cette ville, notamment pour la question des transports, car comme vous le savez, dès qu'on essaye de creuser une ligne de métro, on tombe sur des vestiges archéologiques.
On en a encore eu un exemple la semaine dernière.
Et les sociétés archéologiques, à juste raison, disent que c'est pas possible de continuer les travaux, sans compter encore une fois toutes les affaires de corruption. corruption. Alors, ça, c'est la grande question, effectivement. Il faut rappeler d'ailleurs que le mouvement 5 étoiles, dans un premier temps, a dit qu'il ne voulait pas conquérir la ville de Rome. Et puis, voyant que la mayonnaise prenait, en quelque sorte, ils sont pris au jeu. Alors, c'est, d'ailleurs, vous l'avez dit dans votre introduction, la grande question pour le mouvement 5 étoiles. Qu'est-ce qu'on fait quand on gagne et quand on gagne des grandes municipalités? Alors, on a un exemple qui est celui de Parme, où Parme a été conquis par le mouvement 5 étoiles. Et déjà, ça a été immédiatement un changement de programme par rapport à ce qui était annoncé. Notamment, il y avait un problème sur un incinérateur d'ordures qui devait être immédiatement arrêté. Et finalement, ça n'a pas été fait. Et d'ailleurs, les critiques du mouvement 5 étoiles ont été très fortes contre le maire Pizzarotti de Parme, qui par ailleurs a reçu un avis de poursuite judiciaire qui a amené son exclusion. Mais le mouvement 5 étoiles est caractérisé par des forts contrastes et des fortes divisions internes. Donc oui, c'est la grande question. Elle l'aspire, elle représente une nouveauté. Le mouvement 5 étoiles représente une nouveauté, une sorte de ras-le-bol des Romains qui veulent tenter autre chose. Reste à savoir comment, effectivement, elle pourra gouverner une ville aussi complexe. Mais cela dit, cette question pourrait être dite aussi pour les candidats qui sont en face d'elle, qui ont finalement eu très peu d'expérience politique. Ouais, mais ouais, c'est effectivement la grande question de ces mouvements. Hein, des mouvements qui, à la fois, refusent la professionnalisation de la politique et qui, en même temps, se retrouvent dans des situations de responsabilité.
Et alors, il y a une chose, Marc Lazare, sur laquelle je voudrais vous entendre, parce qu'il y a 4-5 semaines, oui, quelques semaines en tous les cas, le mouvement 5 étoiles a publié un document interne, appelé un code de comportement, dans lequel on apprend qu'un candidat Grillino, c'est-à-dire un candidat du mouvement 5 étoiles, élu à la municipalité de Rome, ne pourrait pas changer de couleur politique à moins de payer une amende de 150 000 euros. Comment comprendre cette décision? Est-ce qu'il ne faut pas, parce que certains observateurs italiens l'ont dit, est-ce qu'il ne faut pas voir là peut-être une certaine peur du mouvement 5 étoiles de voir précisément des candidats à lui arriver au pouvoir et se casser les dents?
Absolument, parce que c'est ce qui s'est passé au Parlement. Le groupe parlementaire du mouvement 5 étoiles s'est retrouvé dans une situation extraordinairement complexe parce que dans un premier temps, il a joué la carte de l'obstruction parlementaire systématique pour dénoncer les pratiques parlementaires. Et puis rapidement, il s'est divisé sur un certain nombre de questions très importantes, y compris parce qu'il y avait des dispositions de loi proposées par le gouvernement qui reprenaient certains aspects du programme du mouvement 5 étoiles. Je vous donne un exemple, la réforme sur les unions civiles, c'est-à-dire la reconnaissance juridique des couples du même sexe. Mmh. C'était dans le programme du mouvement 5 étoiles. Mais le mouvement 5 étoiles ne l'a pas voté au prétexte que Matteo Renzi a dû faire des concessions sur cette loi afin de la faire passer. D'ailleurs, cette date de 2016 sera très importante pour l'Italie. À mon sens, elle est aussi importante que le référendum sur le divorce qui a confirmé la loi sur le divorce. N'oublions jamais que nous sommes dans un pays où juste à côté, enfin au cœur de l'Italie, il y a le Vatican. Et Matteo Renzi a fait une concession qui était de ne pas reconnaître ou donner la possibilité d'avoir des procédures d'adoption pour les couples du même sexe. Et c'est sur ce prétexte que le mouvement 5 étoiles a refusé de voter. Mais depuis l'élection de 2013, on a eu effectivement un certain nombre de parlementaires du mouvement 5 étoiles qui ont été soit exclus, soit qui sont sortis du groupe parlementaire pour rejoindre tel ou tel groupe, un autre groupe politique. Et c'est une des grandes questions qu'en Italie on appelle le transformisme. C'est-à-dire que vous êtes élu au Parlement sur une liste centre-gauche ou une liste centre-droite et au cours de la législature, vous changez de camp, y compris en perspective de votre éventuelle prochaine réélection. Donc pour empêcher cela, ça remonte au 19e siècle, hein, c'est une histoire très ancrée dans la pratique parlementaire italienne, le mouvement 5 étoiles a effectivement pris cette disposition très sévère.
Alors, quand on parle du mouvement 5 étoiles, on pense tout de suite à Beppe Grillo. Mais il y a aussi un autre homme, une autre voix, peut-être qu'on entend moins, mais qui est très importante dans le mouvement.
Io mi ricordo un famoso slogan del 1968 che diceva la fantasia al potere. Ecco, noi abbiamo bisogno di fantasia e creatività per uscire da questa situazione.
Alors, vous avez probablement, Marc Lazare, reconnu la voix de Gianroberto Casaleggio. On est en mars 2013, place San Giovanni, à Rome. Et donc, c'est cet homme-là qui a cofondé avec Beppe Grillo le mouvement 5 étoiles. Alors, il se trouve que c'est un homme qui est décédé il y a quelques jours, je crois le mois dernier. Et c'était lui qui gérait donc le parti dans l'ombre de Grillo. Quel était son rôle? Quel était son positionnement politique? Parce que c'est ça maintenant qu'il faut essayer de comprendre du point de vue idéologique. Comment positionner ce mouvement 5 étoiles sur l'échiquier? Marc Lazare.
Alors Casaleggio, effectivement, c'était, on l'a surnommé le gourou du mouvement 5 étoiles. Beppe Grillo, c'était en quelque sorte son tribun, son porte-parole, extraordinairement brillant, effectivement, grand orateur. Et Casaleggio, c'est l'homme qui pense la communication. Il faut savoir d'ailleurs que le mouvement 5 étoiles est la propriété privée du groupe Casaleggio, donc de son fils maintenant. C'est étonnant pour un mouvement qui veut être dans une procédure démocratique. Alors, c'est vrai que la perte de Casaleggio est une énorme perte pour le mouvement 5 étoiles. Et d'ailleurs, on voit des ambitions naître. Il y a plusieurs prétendants qui sont en train de se positionner pour essayer justement d'incarner le futur leadership dans un mouvement qui refuse le leadership mais qui en même temps en a besoin parce que dans nos démocraties...
Et qui en même temps est né là-dessus,
qui est né sur la figure de Pepe Grillo, mais qui, pour des raisons judiciaires qui n'ont rien à voir avec des affaires de corruption mais une affaire d'accident routier, Pepe Grillo ne peut pas être élu et de toute façon a dit qu'il ne voulait pas être élu.
Oui, puis il a pris ses distances. Absolument. Aussi parce qu'il en a aussi un peu ras-le-bol.
Il en a un peu ras-le-bol. Peut-être que le mouvement a dépassé aussi ce qu'il espérait lui-même, que d'une certaine façon, il a été apprenti sorcier de ce qu'il a déclenché. Mais toujours est-il que la grande question que vous posez à travers le cas Casaleggio, c'est où situer ce mouvement 5 étoiles. Et c'est alors là, je pense que d'un point de vue comparatif, c'est singulier. C'est-à-dire que vraiment singulier. Parce que d'un côté, vous pouvez trouver dans les revendications du mouvement 5 étoiles des revendications de la gauche classique. Vraiment classique, c'est-à-dire, par exemple, le revenu de citoyenneté qui est proposé pour ceux qui auraient les plus bas revenus et qui est fixé, si ma mémoire est bonne, à 780 € par foyer familial lorsqu'on gagne moins de 300 € par mois. Donc il y a une mesure de revenu quasiment universel. Mais en fait, là, c'est un revenu de citoyenneté lié justement au revenu des familles. Vous avez des positions de gauche classiques sur la défense de la protection sociale, incontestable. Et vous avez des revendications de gauche post-moderne, ce qu'on appelle la gauche post-moderne, par exemple sur l'écologie, sur la question de l'eau. D'ailleurs, c'est un des points de départ du mouvement 5 étoiles. Il ne faut pas que l'eau soit privatisée, que l'accès à l'eau soit un domaine public. Et donc, ça, c'est très présent dans le mouvement 5 étoiles. Et puis, vous avez des propositions beaucoup plus, très différentes, qui relèveraient de ce qu'on appellerait classiquement la droite. Gros soutien financier proposé avec des taxations pour les petites et moyennes entreprises, par exemple, ou position très ferme, très très ferme sur l'immigration, avec des mesures de sécurité et véritablement de contrôle des flux. Vous savez que l'Italie est actuellement soumise à une arrivée incessante de migrants.
Et là, on voit, pardon, je fais une toute petite parenthèse et je vous laisse poursuivre, mais là, on voit aussi le rôle qu'a encore Beppe Grillo en la matière. Quand, par exemple, quand Sadiq Khan, le nouveau maire de Londres, est élu et qui dit, attendons de voir, vous verrez quand il se fera exploser à Westminster. Là, du coup, on sent qu'il y a aussi cet appel du pied du côté de l'extrême droite.
Et absolument. D'ailleurs, ça s'est concrétisé à une époque à Rome, avant la candidature du mouvement 5 étoiles, lorsque Beppe Grillo a tenté de faire une alliance avec Casa Pound. Casa Pound, c'est un petit mouvement de 5000 personnes, extraordinairement actif, ouvertement fasciste du 21e siècle. Alors, quand il y a ce type de proposition de Beppe Grillo, en l'occurrence, ou sur l'immigration, le calcul était électoraliste, parce que effectivement, beaucoup d'Italiens sont dans une position de rejet de l'immigration, comme dans tant d'autres pays européens. Mais en même temps, ça déclenche une colère interne à l'intérieur du mouvement. Et il a dû souvent faire marche arrière, parce que la sensibilité du mouvement 5 étoiles sur la question de la migration, et des migrants, et de l'immigration, est différente de celle de Beppe Grillo.
Alors, si on n'arrive pas à identifier une idéologie cohérente de gauche ou une idéologie cohérente de droite, de quoi est fait cet homme, finalement?
Alors, cet homme et ce mouvement, c'est la protestation contre contre la situation de la politique actuelle, contre l'Union européenne. Ça, c'est un élément très important. En 2013, le mouvement 5 étoiles, avec Forza Italia, c'est-à-dire le parti de Silvio Berlusconi et la Ligue Nord de Matteo Salvini, ont fait campagne contre l'Union européenne. Et par conséquent, la critique de l'Union européenne est très forte dans un pays qui a connu un basculement historique dont il faut vraiment prendre la mesure. L'Italie, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et au moment du début de la construction européenne, est le pays le plus europhile. Aujourd'hui, pour donner une idée aux auditeurs, l'Italie et les Italiens sont plus eurosceptiques que les Français. Donc le basculement est phénoménal. Et le mouvement 5 étoiles chevauche en quelque sorte cette protestation anti-européenne et en plus anti-allemande, avec un vrai sentiment anti-allemand. Et d'autre part, c'est une série de propositions justement sur la transparence en politique, même si, selon moi, elle n'est pas appliquée dans le mouvement, parce que dès qu'il y a quelqu'un qui est en désaccord avec Beppe Grillo, il est immédiatement expulsés du mouvement, donc il y a une forme d'autoritarisme à l'intérieur du mouvement, mais aussi une aspiration à la rénovation en général de la politique.
Alors justement, rénovation, formulons une hypothèse. Disons que finalement, il n'y a pas d'idéologie dans ce qui constitue la structure de Gianroberto Casaleggio, mais que peut-être le principal, c'est finalement la méthode. Et peut-être ce désir, et ça, il faut mettre l'accent là-dessus, Marc Lazare, ce désir de faire du numérique l'outil de la renaissance du politique.
Absolument. Ça, c'est fondamental et c'est absolument fondamental avec justement tout un problème de contrôle de qui participe à ces dialogues et à ces interventions numériques. C'est par exemple un des grands arguments du Parti démocrate contre le mouvement 5 étoiles. Le Parti démocrate dit, nous, pour désigner nos candidats, par exemple, aux prochaines municipales, nous faisons des primaires. Et le mouvement 5 étoiles n'en fait pas. Et la réponse du mouvement 5 étoiles, c'est la consultation numérique. Mais quand on regarde les données de ceux qui y participent, semble-t-il, c'est relativement faible. Donc, c'est un mouvement très composite, c'est un mouvement qui a beaucoup de mal à s'institutionnaliser, c'est un mouvement qui proclame beaucoup justement de transparence démocratique et de rénovation démocratique, mais qui parfois est démenti, cette aspiration à la rénovation démocratique, par le type de pratique interne du mouvement.
Et en même temps, de fait, il s'institutionnalise. Regardez, récemment, un scientifique proche du mouvement 5 étoiles décrivait la structure donc, du mouvement dans un hebdomadaire italien qui s'appelle L'Espresso. Je le cite. Sur la première marche, il y a 8,5 millions d'électeurs qui ont voté pour le mouvement. Sur la deuxième, le million d'internautes fréquentant le blog de Beppe Grillo. Sur la troisième, les 250 000 inscrits du parti. Sur la quatrième, les 40 000 qui ont pris part au vote pour désigner les candidats du mouvement 5 étoiles, pardon. Sur la cinquième, enfin, les 163 élus. Et enfin, au dernier étage, il y a deux chaises, l'une pour Beppe Grillo, l'autre pour Gianroberto Casaleggio, qui effectivement vient de mourir. Mais de fait, on a là une structure pyramidale extrêmement classique.
Oui, absolument, tout en sachant que le mouvement 5 étoiles se présente comme un mouvement et pas un parti. Or, on a effectivement une forme de cercle concentrique comme ça, dans une étude très classique d'Annick Riegel sur les communistes français qui remonte à 50 ans, elle avait décrit les communistes français comme les cercles de l'enfer de Dante, c'est-à-dire qu'il fallait aller jusqu'au cœur, jusqu'au noyau, et elle essayait de pénétrer dans son étude le noyau des permanents qui pour elle était vraiment le cœur battant du mouvement 5 étoiles, lapsus révélateur du Parti communiste. Je ne dis absolument pas évidemment que le mouvement 5 étoiles est le Parti communiste, mais c'est effectivement qu'il y a ce problème de structuration, il y a un problème d'institutionnalisation, il y a un problème de savoir ce que font les élus du mouvement 5 étoiles, et ajoutons, il y a une dimension sociologique, car quand vous regardez qui sont les électeurs, les 8 millions ces électeurs, ça c'est une question effectivement très importante, on a trois catégories d'abord, des électeurs qui viennent plutôt du centre-gauche, des électeurs qui viennent plutôt du centre-droite, et des abstentionnistes qui se remobilisent, et donc, parce qu'il y a une hétérogénéité de l'électorat, ça explique les positions de Pepe Grillo et du mouvement, c'est-à-dire qu'il prend des positions très contradictoires pour essayer justement de gagner les élections, mais évidemment dans ces cas-là, on le sait très bien, il n'y a pas que le mouvement 5 étoiles qui fait ça, c'est que une fois que vous avez gagné sur des propositions très différentes pour essayer d'attirer différents électeurs, comment vous gérez votre élection, c'est-à-dire comment vous gouvernez. Et enfin, ajoutons un élément qui me frappe beaucoup. D'abord, c'est vu dans les sondages, mais vous avez eu l'amabilité de rappeler que j'enseigne aussi en dehors de Sciences Po dans une université à Rome. Presque tous mes étudiants dans une université considérée comme une très bonne université et avec une sélection, y compris en termes financiers, parce que c'est des étudiants qui doivent payer pas mal, ils sont presque tous sur les positions du mouvement 5 étoiles quand vous discutez avec eux. Parce que pour eux, c'est la nouveauté en politique, c'est l'expression d'un ras-le-bol. C'est l'expression aussi d'une situation dramatique pour la jeunesse italienne, parce que les précaires sont partout, qu'on soit diplômé, et encore pire quand on n'est pas diplômé.
Et qu'est-ce qui va devenir avec un Beppe Grillo qui, de fait, est en train de prendre de la distance, avec un Gianroberto Casaleggio qui est décédé, voilà les deux chaises à présent qui sont vides, on a déjà une guerre de succession qui est en route là.
Oui.
Et on peut se demander ce que pourrait devenir l'avenir de ce mouvement sans ces deux pièces maîtresses.
C'est incontestablement la question qui est posée au mouvement 5 étoiles avec, je crois, une contradiction entre d'un côté une aile plus, qu'on appelle en Italie plus mouvementiste, c'est-à-dire le mouvement, la protestation et essayer bien sûr de prendre le pouvoir mais on n'y réfléchit pas trop, et une aile plus institutionnelle, plus responsable qui est incarnée par le vice-président actuellement de la Chambre des députés, qui s'appelle Luigi Di Maio, qui a d'ailleurs donné...
29 ans.
Absolument.
Très jeune.
Très jeune. qui vient de donner une interview très intéressante dans la revue Politique Internationale pour les lecteurs francophones. Et vrai, je le dis d'autant plus que c'est pas moi qui l'ai faite, hein, donc je l'ai lu récemment. Et c'est très intéressant parce qu'on voit la complexité du raisonnement. Et c'est quelqu'un de très compétent. Je trouve que je l'ai rencontré parce qu'il m'a demandé un rendez-vous. Donc je l'ai vu avec un collègue de sciences politiques, Yves Meny, qui connaît aussi très bien l'Italie. Et on a été assez impressionnés par les qualités oratoires et de formation de ce jeune type, fils d'un député du mouvement social italien. Il vient de la tradition d'extrême droite.
C'est le prochain chef du Conseil italien ?
Si les élections ont lieu en 2018, s'il gagne la bataille interne, ce qui n'est pas sûr, Roberto Bioccio, qui est un meilleur spécialiste du mouvement 5 étoiles parce qu'il fait des études en interne, me dit qu'il est justement pas très apprécié des 40 000 dont on parlait, les plus actifs, parce qu'il est trop institutionnel, parce qu'il a trop habillé le rôle du vice-président de la Chambre des députés. Mais s'il gagne, il sera un candidat redoutable pour Matteo Renzi.
France Culture. Culture Monde par Florian Delorme.
5 étoiles, Podemos, AFD, changer la donne, c'est notre sujet ce matin avec Marc Lazare dans cette semaine spéciale Réenchanter la politique dans le cadre de cette nouvelle journée spéciale sur France Culture en partenariat avec La Croix. Nous allons parler à présent de l'Espagne. On est donc 5 ans après le mouvement des indignés de la Puerta del Sol qui avait donné naissance à ce parti politique, Podemos. Quel bilan est-ce qu'on peut en faire? Quel avenir est-ce qu'il faut lui voir? Est-ce qu'il pourrait lui aussi, pourquoi pas, participer à un gouvernement? On va retrouver une nouvelle invitée, c'est Loïse Ney. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes sociologue, maître de conférence à l'université de Tours et puis auteur notamment de Podemos, des indignations aux élections, aux éditions Les Petits Matins. Alors je vais rappeler quand même quelques éléments pour les auditeurs. Aux dernières législatives de décembre dernier, 4 grandes forces politiques s'étaient partagées l'essentiel des voix. D'abord les 2 partis traditionnels, les conservateurs et les socialistes, et puis la gauche, disons, radicale de Podemos, qui avait rassemblé un peu plus de 5 millions de votes et 69 sièges, sans oublier bien sûr les libéraux de Ciudadanos. Malheureusement, aucun accord n'a pu être trouvé pour créer une coalition de gouvernement. Il y a eu de longues semaines de tractations qui ont finalement abouti à la conclusion qu'aucun parti n'était en fait en situation de créer une majorité et que du coup les Espagnols allaient devoir retourner aux urnes et ce sera très bientôt, ce sera le 26 juin prochain. Et c'est d'ailleurs dans ce contexte que le leader de Podemos, Pablo Iglesias, est en train de travailler pour établir une alliance avec une autre force de la gauche radicale, Izquierda Unida, qui elle avait remporté 900 000 suffrages mais seulement 2 sièges. Écoutez ce qu'il disait il y a quelques jours justement sur la Puerta del Sol.
Unidas Podemos, Unidos Podemos, muchas gracias por recordarnos, por si alguien tenía alguna duda.
Podemos, toutes et tous unis, merci beaucoup de nous rappeler au cas où certains auraient encore des doutes que Podemos n'est pas un parti politique qui a des intérêts propres. Nous sommes une force politique qui est un instrument en main du changement. Et si pour ce faire nous devons nous unir à d'autres et si nous devons être généreux, nous serons disposés à le faire. Merci à ces 98% qui nous ont montré le chemin de la rencontre avec d'autres compagnons. Il faut être très généreux. Je veux remercier toutes les forces politiques qui nous accompagne et reconnaître une autre personne comme le candidat à la présidence du gouvernement. Nous répondrons à cette générosité avec plus de générosité, avec de la gratitude, en reconnaissant l'identité et la différence de chacun. Merci de tout cœur à vous tous qui nous accompagnez.
Muchas gracias de corazón a todos los que nos acompañáis.
Voilà, donc Pablo Iglesias, quasiment 5 ans jour pour jour après le début du mouvement. Les 2 leaders de la gauche anti-austérité, Pablo Iglesias de Podemos et Alberto Garzón d'Izquierda Unida, s'étaient retrouvés sur la Puerta del Sol pour officialiser un pré-accord d'alliance pour les prochaines élections législatives. Héloïse Ney, est-ce que vous pensez que cette alliance est de nature à modifier le résultat du prochain scrutin?
Alors, c'est ce qu'indiquent en tout cas les sondages, hein, actuellement en Espagne. Ils indiquent en fait que les 2 formations, hein, Podemos et Izquierda Unida, donc partis ensemble, pourraient en fait dépasser désormais les socialistes. Alors que en fait Podemos était arrivé juste après le Parti Socialiste. Enfin, il y avait d'abord la droite, hein, ensuite le Parti Socialiste, qui est arrivé en 3e position. Et donc ça leur permettrait en fait de, quelque part, dépasser les socialistes comme formation de gauche.
Et est-ce qu'un grand front, une grande coalition de gauche alors serait possible? Parce que ça n'a pas toujours été l'harmonie la plus parfaite, Héloïse Ney, entre Izquierda Unida et Podemos. Hein. On se souvient de Pablo Iglesias qui disait à propos d'Izquierda Unida, c'est une sorte de schtroumpf grognon de la gauche.
Tout à fait. C'est vrai qu'en fait, ce qu'il faut voir, c'est que quand Podemos émerge, c'est en partie pour bousculer Izquierda Unida. Et en partie, en fait, si on regarde les fondateurs de Podemos, hein, comme Pablo Iglesias, ils viennent tous d'Izquierda Unida. Ils ont tous milité quasiment Izquierda Unida et ils sont tous déçus par ce parti, hein, déçus de son impuissance, déçus de la manière dont a évolué le parti, dont ils ont fait des alliances avec les socialistes. Et donc, en fait, pour Podemos, au début, l'idée de ses fondateurs, ça va être de bousculer Izquierda Unida. Et dans un premier temps, en fait, Izquierda Unida leur tourne le dos en disant « Présentez-vous aux élections européennes en 2014 et on verra bien les résultats. » Et en fait, là, Podemos fait un très bon score. Hein, c'est les premières élections où il se présente.
À 8%, 5 députés.
C'est ça. Il crée la surprise. Hein. Ça fait seulement quelques mois que le parti existe, depuis janvier 2014. Et donc, à partir de ce moment-là, en fait, le discours d'Izquierda Unida change vis-à-vis de Podemos. Et ils veulent faire une alliance déjà lors des dernières élections législatives. Hein. Déjà en décembre, Izquierda Unida cherche l'alliance. Et là, c'est plutôt Podemos qui leur tourne le dos, simplement parce qu'ils sont dans une stratégie à ce moment-là de se dire, vous l'avez présenté en introduction comme un parti de gauche radicale, et eux, justement, refusent ce qualificatif. Et ils cherchent, en fait, à dépasser les clivages gauche-droite. Ils font une campagne en essayant de dépasser ces appellations. Et donc, du coup, ils sont contre la stratégie du front de gauche.
Et comment ils créent leur nouvelle identité, alors, justement, sur quoi ?
Alors, leur nouvelle identité, en fait, plutôt qu'avoir un clivage entre la gauche et la droite, un clivage classique, ils vont mettre un clivage on parle dans l'émission de plusieurs partis qu'ils mettent en avant, hein, entre ceux d'en haut, ceux d'en bas, entre la caste, hein, ils utilisent ce terme aussi, la caste et le peuple, les citoyens et les élites. Et donc, en fait, c'est un clivage qui avait déjà été mis en avant par le mouvement des indignés, hein, en Espagne, et que va reprendre Podemos pour dire, finalement, c'est plus tellement une question gauche-droite qui se pose, c'est plutôt cette question entre ceux d'en haut, ceux d'en bas, et donc ils vont essayer de se positionner sur, on va dire, en mettant ce clivage en avant.
D'accord, donc c'est peut-être la principale leçon, si on se demande finalement ce qu'a changé Podemos dans le paysage politique espagnol, c'est d'avoir fait voler en éclats ce clivage gauche-droite. Bah, c'est évidemment d'être devenu aussi un parti absolument incontournable, parce que maintenant, aujourd'hui, on ne fait pas de coalition sans Podemos.
Alors, on fait pas. Ce qui est sûr, c'est que le gros changement, c'est que c'est le bipartisme, en fait, qui est remis en cause. Hein, jusqu'à présent, enfin, jusqu'à ce qu'on appelle la transition démocratique en Espagne, hein, ce qui est la période qui suit la fin du franquisme, il y avait deux partis qui alternaient au pouvoir, soit le Parti populaire, donc à droite, soit le Parti socialiste. Et là, en fait, ces deux partis, ce qui est sûr, c'est qu'ils ne peuvent plus gouverner seuls. C'est pas, aux dernières élections législatives, il n'y a pas eu un effondrement total du bipartisme, dans le sens où ils sont quand même arrivés en première position. Mais par contre, ils ne peuvent plus gouverner seuls. Donc, il faut se composer avec les nouveaux partis, et le principal, c'est effectivement Podemos. Donc ça, c'est vraiment une remise en cause profonde, en fait, de la scène électorale.
Et comment on réagit, justement, du côté des partis traditionnels ? Et ensuite, je donne la parole à Marc Lazare pour l'entendre. Est-ce que vous diriez que les deux partis historiques traditionnels, c'est-à-dire les conservateurs du PP et puis les socialistes du PSOE, ont modifié leur manière de faire, d'appréhender de la politique ?
En partie.
En quoi ?
Surtout, je dirais, le Parti socialiste. Par exemple, une grande nouveauté de Podemos, hein, c'est aussi le rajeunissement des élites. Si vous regardez les principaux leaders de Podemos, ce sont des trentenaires, hein, pour la plupart. Si vous regardez les nouveaux députés, ils sont beaucoup plus jeunes que les autres. Et en fait, ça a incité d'autres partis, comme le Parti socialiste, comme Izquierda Unida, à renouveler leurs leaders. Hein, si on regarde les candidats pour les élections législatives, on a des leaders qui sont beaucoup plus jeunes qu'auparavant. Et ensuite, un ensemble de pratiques qui ont été modifiées. Par exemple, si vous regardez le Parti socialiste, la pratique des primaires est davantage développée. Et par exemple, si on regarde là, les alliances, l'alliance qu'ils ont faite avec Ciudadanos, donc le Parti libéral, pour essayer de former un gouvernement, ils l'ont mis au vote de leurs militants. Donc ça, c'est quelque chose qui a aussi impulsé un peu Podemos, le fait en interne que les partis consultent davantage leurs militants ou leurs sympathisants.
Marc Lazare.
Oui, on retrouve des choses comparables en Italie à ce qui se passe en Espagne. C'est très intéressant parce que, encore une fois, le Parti démocrate en Italie, c'est, ou plus exactement avant le centre-gauche, à partir de 2005, puis à partir de 2007, quand est formé le Parti démocrate, a toujours mis au cœur de sa pratique politique la question des primaires. Donc les primaires ne sont pas une réponse au défi du mouvement 5 étoiles. Mais elles n'ont fait que s'approfondir, même si elles ont réservé parfois des surprises. Ça, c'est un aspect. Et je constate qu'au sein du Parti démocrate, pour là, on parle de la gauche, parce qu'il faudrait aussi analyser analyser ce qui se passe à droite, mais pour ce qui concerne le Parti démocrate, il y a Matteo Renzi a joué la carte de la jeunesse. Quand il prend le pouvoir, il a moins de 40 ans, et il a fait monter dans la direction, alors des gens qui sont complètement à son service, il y a une dimension clan très forte chez Matteo Renzi, mais tous jeunes. Et ça, c'était pour rompre avec la gérontocratie italienne qui est considérable et pour donner une réponse au mouvement 5 étoiles. Le seul problème, et ça m'intéresse de savoir ce que ma collègue en pense, c'est que cette pratique nouvelle du Parti démocrate, un rajeunissement, n'a pas affaibli le mouvement 5 étoiles. Encore une fois, on l'a vu tout à l'heure. Alors, est-ce que, d'après vous, en Espagne, je suis désolé de...
Non, c'est une très bonne question, effectivement. Est-ce que ça pourra affaiblir Podemos? C'est ça la question.
Voilà. Et où est-ce que Podemos, comme on peut le penser, de toute façon, va rester à un niveau très haut, voire progresser, comme vous le disiez au début de votre intervention, parce qu'il exprime justement une aspiration au changement très profonde, quand bien même se poserait beaucoup de questions si jamais il se retrouvait au pouvoir.
Alors, Héloïse Ney, la réponse.
Je ne pense pas, effectivement, le fait que, par exemple, Pedro Sanchez, le nouveau candidat là, du Parti Socialiste, soit été mis en avant, c'était plutôt, je pense, une réaction, en fait, du Parti Socialiste, de dire, il faut qu'on renouvelle aussi notre équipe. Et c'est vrai que plusieurs partis ont fait ça. Par exemple, si on regarde le dernier Parlement, au niveau du Congrès des députés, il y avait 62% de renouvellement. C'est quand même quelque chose d'assez assez important. Et donc de nouvelles têtes qui sont mises en avant, mais je pense que c'est pas forcément ce qui peut affaiblir Podemos. C'est plutôt une réaction des autres partis de se dire il faut aussi qu'on bouge, il faut aussi qu'on se renouvelle. Mais je pense pas que ce soit sur ce terrain-là qu'on va voir. Enfin, ça a forcément impliqué un affaiblissement de Podemos. C'est plutôt les autres partis qui sont amenés de fait à composer avec un nouvel acteur en fait, qui n'existait pas jusque-là. Il y a un peu plus de 2 ans, Podemos n'existait pas, et donc du coup ils ont dû s'adapter d'une manière ou d'une autre à l'entrée d'un nouveau parti, et puis une entrée assez forte, en moins de 2 ans, récupérer plus de 20% des suffrages aux élections générales, c'est une éruption vraiment d'un nouveau parti qui est assez impressionnante.
Héloïse Ney, toute dernière question, et je vous demanderai une réponse très courte, parce qu'après on va se diriger du côté de l'Allemagne, mais vous disiez finalement Izquierda Unida pourrait grappiller des voix aux socialistes, et en même temps les socialistes travaillent, changent de stratégie, prennent des candidats plus jeunes, etc. Donc peut-être que ça pourrait aussi améliorer le score des socialistes. Faisons une hypothèse. Disons que pour les futures législatives, on a exactement le même résultat. Aucune coalition ne sort du prochain scrutin. Le pays est dans une crise politique et institutionnelle profonde. Et alors là, c'est Mariano Rajoy qui sort à nouveau son épingle du jeu, qui joue le rôle de sauveur et qui finalement apparaît comme la seule option. Ce serait la victoire de l'immobilisme et du statu quo.
Ouais, je suis pas sûre, parce que en fait là par exemple Mariano Rajoy lors des dernières législatives, il est arrivé en premier, il a essayé de jouer un peu cette carte de dire j'étais le parti le plus voté, ce qui est effectivement le cas, enfin celui qui arrive en premier en tout cas, mais de fait il n'avait pas de soutien en fait pour faire un gouvernement. Donc tout dépendra en fait de l'équilibre des rapports de force qui là pour le coup reste assez traditionnel, c'est-à-dire est-ce que c'est plutôt ceux à droite, nouveaux et anciens partis, c'est-à-dire le Parti Populaire avec Rajoy et Ciudadanos qui peuvent remporter la balance, ou est-ce que c'est plutôt les Podemos, l'Alliance Unidos au Podemos et le Parti Socialiste qui peut l'emporter. Et en fait, ce qui s'est passé lors des dernières législatives, c'est que cet équilibre était était très équilibré. Justement, il n'y avait pas une force plutôt de gauche ou plutôt de droite qui pouvait emporter.
Et donc, il va falloir suivre ça de très très près. Pardon, Héloïse Ney, il faut absolument qu'on aille du côté de l'Allemagne. En tout cas, un grand merci d'avoir été avec nous. On mettra bien sûr les références de vos ouvrages sur le site de Culture Monde. On va prendre la direction de l'Allemagne. Nativisme, suppression de genre, exaltation de l'homme ordinaire, de petites gens issus d'un mouvement anti-euro, agitant la menace allochtone que la crise des réfugiés, bien sûr, alimente largement. L'AFD. Alternative pour l'Allemagne, qui est née en 2013 pour dénoncer le plan de sauvetage de l'euro, qui est désormais un parti de droite radicale qui s'impose progressivement dans ce paysage politique. En mars dernier, aux élections régionales, le parti a recueilli environ 11% des voix en Rhénanie-Palatinat, 15% dans la Bade-Wurtemberg et surtout 23% en Saxe-Anhalt, devenant ainsi la deuxième force politique du Länder. C'est donc désormais le Bundestag qui est visé. Ça pourrait être pour l'automne 2017. Ce qui serait évidemment une rupture, puisque le Parlement allemand n'a pas accueilli de parti d'extrême droite depuis la Seconde Guerre mondiale. On va retrouver Hans Forlander, qui est politologue à l'université de Dresde, la ville justement qui a vu naître le mouvement Pegida. L'ascension de l'AFD est-elle irrésistible? De quelle crise est-elle le symptôme? Il est au micro, pardon, de Clément Salazar.
Pegida movement was...
Le mouvement Pegida est une sorte d'alliance avec le parti AFD, même s'il faut bien reconnaître que l'AFD est entrée au Parlement avant que Pegida ne descende dans la rue. L'AFD était représentée en Saxe dès le début 2014, tandis que Pegida est apparue dans la rue, toujours en Saxe, à l'automne 2014. Il s'agit donc d'une sorte de développement parallèle dans la rue et au Parlement, avec un partage de la représentation politique. Mais ils sont parfois concurrents. En Saxe, par exemple, l'AFD et Pegida ne vont pas dans le même sens sur l'échiquier politique. Dans d'autres Länder allemands, en revanche, ils ont noué une alliance. Donc ils sont concurrents et en même temps partenaires au sein d'alliances essentiellement ponctuelles pour l'instant. Disons que Pegida est un mouvement xénophobe, anti-islam et anti-migrant, dont l'espace est la rue et l'AFD est le versant partisan. Un parti anti-musulman, anti-migrant et xénophobe au Parlement.
Pourquoi Hans Vorländer, l'AFD, semble réussir là où d'autres partis d'extrême droite, tels que le NPD ou le DVU, ont échoué ?
En fait, le NPD n'a jamais eu beaucoup de succès en Allemagne, à part à la fin des années 60, où ils ont été représentés dans 7 ou 11 parlements régionaux. Mais aujourd'hui, le NPD apparaît en marge du système politique, comme un parti d'extrême droite proto-fasciste. Tandis que l'AFD a bénéficié des voix des sociodémocrates, des démocrates chrétiens et même des partis de gauche. Angela Merkel a déplacé l'Union chrétienne démocrate vers la gauche de l'échiquier politique, ce qui a laissé un vide à droite, désormais occupé par l'AFD. L'AFD est en fait une sorte de parti anti-establishment qui catalyse un fort mécontentement et une certaine désaffection à l'encontre de la classe politique habituelle. C'est cela qui lui a permis de rallier autant de soutien.
Le parti, vous l'avez dit, surfe sur cette vague anti-islam, la crise des réfugiés, l'après-Cologne aussi. Donc le parti mobilise manifestement sur ce ressentiment, mais dans quelle mesure ce succès de l'AFD est aussi le signe d'un SDU, du parti majoritaire, plus que jamais divisé, même en son sein, puisque le mantra d'Angela Merkel « nous allons y arriver » ne semble plus véritablement convaincre. Dans quelle mesure cette ascension de l'AFD, elle s'inscrit aussi dans un contexte plus global de déclin des grands partis de gouvernement et de montée des partis oppositionnels ?
Il y a un peu des deux. D'un côté, l'AFD est symptomatique d'une crise profonde du système politique et des partis qui sont considérés comme appartenant à l'establishment politique. En même temps, son succès est aussi largement dû à ce déplacement de la CDU vers la gauche, ou le centre, disons, avec la politique migratoire d'Angela Merkel, ce qui laisse ce vide à droite. L'AFD bénéficie donc des deux phénomènes, la crise profonde des partis politiques et la crise des réfugiés et sa gestion qui ont déplacé la CDU vers le centre-gauche de l'échiquier politique.
Comment Hans Vorländer, la SDU, Angela Merkel, s'adapte à l'AFD ? Quelle stratégie adopte-t-il ?
Je ne sais pas trop. Tant qu'Angela Merkel sera chancelière, je ne pense pas que la CDU change de cap et revienne foncièrement à droite. Mais une scission est toujours possible. Certains membres du parti appellent déjà un changement d'orientation, justement. Il y a des tensions au sein de l'Union chrétienne démocrate, c'est certain. Et si la grande coalition était amenée à prendre fin, alors la CDU repartirait vers la droite pour récupérer ses électeurs.
S'achemine-t-on vers un nouveau système partisan ?
Nous avons déjà un nouveau système de partis fragmenté. Il y avait généralement 3 ou 4 grands partis représentés au Parlement et il y en a désormais 6 ou 7. Cela change clairement la donne dans l'établissement des coalitions. Et nous en avons d'ailleurs des nouvelles. C'est déjà le cas dans le Bade-Württemberg avec une coalition verte-noire entre le parti écologiste et la CDU et en Saxe-Anhalt où nous avons une nouvelle coalition entre la CDU, le SPD et les Verts. C'est une nouvelle scène politique et un nouveau système de coalition. Les grands partis dits de gouvernement doivent s'adapter à ce système en termes de logique électorale et de politique pour nouer ces nouvelles alliances.
L'AFD, lors de leur congrès de Stuttgart, où s'élaborait pour la première fois un programme, semblait très soucieux de démocratie directe. Chaque paragraphe devait être approuvé par les membres. Est-ce que c'est inédit ?
Tous les partis populistes de droite revendiquent la démocratie directe, vous savez. Ils sont contre la démocratie représentative, parce que pour eux, c'est une tentative de corruption de la part de ce qu'ils perçoivent comme l'establishment, qui décide au nom du peuple, et c'est cela que ces partis critiquent. Donc cette démarche-là n'est pas inédite en soi.
Pour conclure, Hans Vorländer, Syriza, Podemos parlent de désastre social dans leurs pays respectifs. Durkheim, lui, disait que le socialisme était un cri de douleur. Alors de quoi l'extrême droite est-elle le cri dont la social-démocratie semble être sourde? Mais d'après vous, qu'est-ce qui est en crise?
So, Pegida and AFD are movements and parties of outrage and indignation, but the indignation is not...
Pegida et l'AFD sont des mouvements et des partis protestataires qui partent d'une indignation également, en effet. Mais cette indignation n'est pas due à la situation économique, parce que l'Allemagne est un pays qui va bien, qui est prospère économiquement. C'est la grande différence d'avec les pays que vous mentionnez. C'est donc plus, je crois, une réaction culturelle, une haine et une protestation face à de nouvelles incertitudes. C'est un peu une angoisse du statu quo, vous voyez, parce que les gens pensent que des changements se préparent et que cette nouvelle donne va avoir un impact sur leur vie. Ce n'est pas encore le cas, mais ils craignent tout simplement que ces changements géopolitiques, les crises qui surviennent dans le monde entier, l'évolution des migrations, que tout cela ait des conséquences sur eux. C'est ça qui les inquiète et qui les angoisse. Pegida, l'AFD, c'est une crise d'angoisse autour de choses qui ne sont pas encore tangibles. Ce n'est donc pas la crise économique ou sociale qui crée la souffrance ici, c'est la perception d'une crise à venir qui provoque cette indignation, cette haine et ces angoisses.
Hans Vorländer, au micro de Clément Salazar. Hans Vorländer qui est politologue, professeur de sciences politiques à l'université de Dresde, un spécialiste de Pegida et de l'AFD. Il faudra suivre, hein, bien sûr, hein, Marc Lazare, l'évolution des choses aussi du côté de l'Allemagne. En tout cas, un grand merci à vous de nous avoir accompagnés pour cette première journée sur cette série Réenchanter le politique. On va continuer toute cette semaine. Merci beaucoup, Marc Lazare.
Merci à vous.
Dans un instant sur France Culture, c'est la grande table avec Caroline Brouet. D'ailleurs, il sera encore question de politique et d'Italie, puisque c'est Sandro Gozzi, membre fondateur du Parti démocrate italien, qui sera présent dans quelques instants à votre place, Marc Lazare. Mais juste avant, c'est La Vie moderne sur France Culture. Très belle journée et à demain.